Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre La Meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré, un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment La Meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode. Comme ça, tu ne rateras aucune des actus concernant La Meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue, Boobs, dans La Meute. Je suis ravi de t'accueillir.
Merci pour ton invitation.
D'ailleurs, tu préfères qu'on t'appelle comment ? L'INSEE ou Boobs, du coup, quand on est sur les réseaux comme ça ?
L'INSEE, enfin, ça me dérange pas. On m'appelle Boobs, on m'appelle Boobsy aussi.
Ok.
Mais l'INSEE, ça me va très bien. Okay. Je me cache pas. Je me cache pas.
Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas ?
Oui. Donc, l'INSEE, a.k.a. Boobs, a.k.a. Boobsy. Donc, j'ai 34 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Et depuis bientôt 2 ans, je tiens le compte Instagram, donc Boobs, qui parle allaitement, mais pas que. Et qui surtout le désacralise et le banalise avec humour et qui essaye d'apporter une réflexion en fait pour qu'on puisse se déconstruire autour de ça.
Ouais.
Voilà, donc c'est un conte qui grandit mois après mois et qui m'a permis égoïstement mais aussi en partageant de grandir, enfin d'avoir une autre vision de l'allaitement qui était plus dans le prosélytisme au début et qui est maintenant plus dans l'inclusion de toutes les maternités en fait.
D'accord.
Voilà.
Donc au début tu étais limite dans la secte de l'allaitement.
Je dirais pas la secte mais tu vois plus dans l'extrême. C'est-à-dire que si tu allaitais pas, tu étais une mauvaise maman. Voilà, clairement.
Ah ouais, vraiment, t'avais cette pensée.
Ouais. Parce que je me disais, attends, moi, je me casse la binette à le faire. Pourquoi ? Et parce que je sais que c'est bon aussi, hein. Mais oui. Je fais tout pour, tu vois, je m'informe, je regarde. Et pourquoi les autres le font pas, en fait ? Et pourquoi c'est pas quelque chose qui se fait naturellement comme boire de l'eau, tu vois. Et du coup, au départ, je me disais non, mais si on veut, on peut quoi. Faut arrêter. Il y en a qui l'ont fait. Des mamans sont passées par là. Alors il y a pas de raison, bla bla bla. Et j'étais vraiment dans ma bulle, tu vois. Mmh. Et je prenais pas en considération le fait que autour de moi, il y avait d'autres femmes qui n'étaient pas soutenues, qui n'avaient pas l'accès à l'information, qui n'avaient pas, qui n'étaient pas dans un environnement propice à, tu vois. Ouais. Et ça, je le prenais pas en considération. Je ne prenais pas en considération aussi le fait que certaines mamans, ont eu des débuts d'allaitement difficiles, parce que moi, ça s'est extrêmement bien passé finalement. Mmh. Donc, pour moi, j'avais mes œillères. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Une maman, même si elle a allaité même une heure, ou si elle n'a pas allaité, je connais pas son histoire, je ne sais pas les tenants et aboutissants qui font qu'elle a choisi, pas choisi, j'en sais rien. Donc, je suis personne pour donner mon avis sur quelque chose qui la regarde.
Mmh.
Même s'il y a un enfant en jeu, tu sais pas ce que la personne vit. Et c'est même pas qu'au niveau de l'allaitement, hein, parce que là on parle d'allaitement parce que c'est mon compte, mais en règle générale, dans la vie en général, tu sais pas ce que la personne traverse pour être amenée à prendre telle ou telle décision. La seule chose que tu peux faire, c'est l'accompagner avec bienveillance, avec la bienveillance que tu as, et pas la juger, quoi. Et c'est pas un discours bisounours, c'est vraiment tu vois, non mais certaines personnes, tu vois, quand tu vas parler quand mon compte au départ était vraiment dans l'extrême de tu n'allaites pas, t'es mauvaise, ça a fédéré des personnes, tu vois, qui étaient dans cette
dans cette idée
exactement. Donc du coup ça a vraiment vite pris mon compte, parce que t'avais plein de mamans qui sont en colère, qui étaient en colère et qui sont encore en colère de ne pas être valorisées ou pas considérées quand elles allaitent. Donc du coup, moi, j'étais dans un discours contestataire. Et ça plaisait. Mais je me suis rendu compte, au fil de mes discussions, au fil de mes recherches, au fil de mes propres prises de conscience, que c'est pas comme ça que tu fais intégrer des idées aux gens. Pas, encore une fois, pas dans le prosélytisme, mais apporter une réflexion qui fait que toi, ensuite, tu te dises « Ah ouais, peut-être que... » Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui.
Que tu sois dans cette réflexion.
Faire un pas vers l'autre, si absolument. On veut qu'on fasse aussi un pas qui soit fait, quoi.
Absolument. Et t'en as qui vont te dire, parce que je l'ai eu, hein, c'est une vendue, ou elle a retourné sa veste, ou je sais pas quoi. Non.
Ouais.
C'est vraiment une vraie prise de conscience que on n'est pas toutes égales. On n'est pas toutes égales. Et on est dans une société qui ne nous met pas en condition d'égalité non plus,
oui.
Tu vois. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois que même si la maman, elle a allaité même une heure, même si elle a juste fait la tétée d'accueil, c'est juste extraordinaire déjà.
Grave. Parce
qu'on est tellement conditionné. Alors ça va être mon mot, hein, Rémi. Hein.
Le conditionnement,
je te jure, je devrais en faire un slogan ou je sais pas. Mais ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'on est tellement dans cette optique de se détacher vite de son enfant, de retourner au travail, de s'épanouir hors de sa vie de mère. Dès notre enfance, en fait, hein, dès notre enfance, on a des jouets, ce sont des biberons. On a des jouets, c'est pas des écharpes de portage, ce sont des poussettes. On a cette vision de la maman d'une part, le bébé d'une part, alors que au tout début, en tout cas, c'est fusion, en fait. C'est la fusion. Et dans cette société-là, où, plutôt individualiste, le fait que la maman prenne le contre-pied, finalement, de tout ce qu'elle a connu depuis toute petite, parce qu'on va pas se mentir, on a un grand nombre de femmes, on n'a pas été élevées dans un milieu où les femmes allaitent, où les femmes maternes, moi, je suis une enfant des années 80 et c'est pas l'image qu'on avait de la femme qu'on considérait comme femme libérée, autonome, ouais. Tout ça, tu vois. Et reprendre le pas aujourd'hui en 2020 et se dire que on va à contre-courant de ce qui est prôné aujourd'hui, c'est énorme. En vrai de vrai, c'est énorme. Parce que
Je pense que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette image de la femme libérée et tout. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu dans une ambivalence où justement, c'est un mouvement qui revient beaucoup avec le féminisme et tout ça, qui revient pas mal en force ces temps-ci. Et d'un autre côté, effectivement, les mères qui sont devenues mères justement dans les années 80, les années 90, qui justement essayaient de prendre un peu leur indépendance et tout ça, et donc étaient moins dans le maternage proximal et justement pour avoir de l'indépendance.
Ouais.
Et elles comprennent pas qu'aujourd'hui il y a des femmes qui sacrifient, selon elles, leur indépendance. Pour soi-disant, entre guillemets, pour elles, tu vois, le bien-être absolu de leurs enfants.
Parce qu'on leur a presque
un retour en arrière, tu sais.
Exactement, c'est marrant. Je sais pas si t'as vu, j'avais fait une story il y a genre deux semaines, où j'étais outrée. Parce que tu vois, j'ai vraiment pris du recul et j'essaye vraiment de pas être dans le jugement, vraiment.
C'est pas toujours facile.
Mais c'est vraiment pas facile en fait quand tu te prends une bourrasque de clichés. Et j'ai eu une discussion avec justement un homme
je me souviens de ta story.
Qui est né dans les années 60, fin des années 50, et qui avait cette idée que la femme indépendante, c'est la femme qui travaille.
Ouais.
Et on a une, mon mari est pro-féministe. Il se dit pas féministe parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il va dire qui vont pas forcément être en accord et qu'il va pouvoir, il va encore faire des erreurs. Donc il se dit pro-féministe, à discuter, à échanger avec lui, parce que moi j'étais vraiment, franchement, on aurait pu mettre un émoticône, tu sais, l'émoticône rouge là, qui est énervé avec la barre avec les insultes, tu sais.
Ouais, je vois.
j'étais pas du tout encline à échanger. Et on parlait justement de cette position de la femme. Quelle femme, aujourd'hui, va te dire qu'elle préfère partir au travail pour un patron ? Enfin, si tu lui mets vraiment tous les points, entre guillemets, points pour et points contre, hein,
ouais.
Partir au travail pour un salaire de misère, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une inégalité salariale entre un homme et une femme, une discrimination entre hommes et femmes, les boulots, tu pars au boulot mais tu reviens chez toi et t'as encore du boulot, et t'es pas considéré en fait, enfin t'as une position au sein de ton entreprise qui est pas, t'es à la charge d'un patron quoi. Et à côté de ça, tu as la femme au foyer qui reste avec son enfant, qui les premières années va contribuer à son épanouissement, va dans le meilleur entre guillemets pardon des cas, va lui donner le sein, va le materner, va assister à ses premières avancées. Ouais, t'es avec ton enfant, mais t'es pas à la charge d'un patron en fait. Et c'est ça que les médias et puis tout ce qui a été enfin, tu vois, tous les lobbies autour vendent à la femme. C'est vous partez au travail, vous serez libre. Mais libre de quoi ? C'est simplement que tu n'auras pas à t'occuper de ton enfant et tu le laisseras à la charge d'une autre personne. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Donc, c'est pas... Je ne remets pas en cause les femmes qui travaillent, hein, attention. Je dis juste que les femmes, aujourd'hui, travaillent non pas parce qu'elles le veulent, mais c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Aujourd'hui, on te dirait, tu restes à la maison, tu t'occupes de ton enfant, tu le maternes et tu as un salaire. Qu'est-ce que les femmes vont préférer faire, honnêtement?
Et puis, tu sacrifies pas ta carrière après si jamais tu veux revenir au travail, etc.
Exactement. Tu choisis. Ben, je te dis tu parce que on parle, mais tu n'es pas une femme. Mais mais enfin voilà, entre rester chez toi, t'occuper de ton enfant et en plus de ça avoir un salaire pour, et à côté, ben tu pars au charbon et t'es pas considéré. Non, c'est pas être libéré. C'est que tu reprends historiquement, les femmes sont allées au travail parce que les hommes partaient à la guerre et qu'il y avait besoin de femmes à l'usine.
Ouais.
Mais avant ça, elles étaient à la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas quelque chose d'archaïque. Je suis féministe, tu vois ? Et c'est pas quelque chose d'anti-féministe de dire que rester à la maison et donc d'être avec ton enfant, c'est pas revenir... Enfin, c'est pas être déconsidéré. Pas du tout. Et je suis les deux, hein, tu vois. Je travaille chez moi, mais je suis avec mon enfant.
Mmh.
Et ça fait 3 ans que c'est comme ça. Mais on est dans une société tellement conditionnée et tellement ancrée dans ses références que les femmes aujourd'hui se disent « Ah non, mais moi, je reste pas à la maison, c'est pas possible. Hein. Je reste pas à la maison, moi, je vais au travail. Parce que non, en fait. » Et c'est parce que de génération en génération, le mouvement féministe 68ard est ancré encore aujourd'hui, tu vois.
Oui.
Et alors que non, c'est le contraire en fait. Cette vision, c'est la vision de la femme qui va travailler, c'est une vision patriarcale. Même si ces femmes-là...
Oui, parce que souvent, effectivement, elles partent travailler chez un patron masculin, blanc et vieux. Et voilà, quoi.
Exactement. Mais c'est parce que tu t'arrêtes... En fait, je pense que beaucoup de femmes s'arrêtent juste à « j'ai mon indépendance financière » parce qu'avant, je devais dépendre de mon mari pour pouvoir... pour pouvoir faire mes courses, me déplacer, faire ce que je voulais, tu vois. Et en se disant que j'ai mon travail, je pars, j'ai mon salaire, ben, Bah, du coup, voilà. Et à côté de ça, l'enfant n'entre pas dans cette configuration-là. Tu vois? L'enfant, encore aujourd'hui, est un frein pour certaines femmes parce que quand tu es en entreprise, est-ce que vous allez avoir un enfant? Est-ce que vous comptez avoir un enfant? C'est une question qui est posée aux femmes. Tu vois?
Ouais. C'est une menace à l'emploi.
Exactement. Alors, en plus, si tu dis que t'allaites, bon, t'as pas à le dire, c'est pas quelque chose qui regarde ton employeur, mais si tu pars dans le côté maternage, si tu prends ton congé parental, ou si, enfin, tu vois, les réflexions, les remarques que tu pourrais avoir, sont juste hyper culpabilisantes, tu vois. Et pour une femme, encore une fois, tu prends ensuite tout l'environnement de cette personne-là. Si à côté de ça, ben, tu vois, la femme, elle arrive au travail et puis elle n'est pas soutenue par son mari ou par son entourage, qu'on lui dit, ouais, il va falloir que tu fasses telle heure. Donc, du coup, ben, tu vas devoir sacrifier ton allaitement et qu'à côté, ben, t'as le mari qui lui dit, ouais, c'est vrai, il a raison. Ben, voilà, un allaitement qui s'arrête. Mmh. Et à côté de ça, ben, une femme qui sera frustrée ou une femme qui sera triste d'avoir arrêté pas par choix. Encore une fois, c'est pas par choix.
Ouais, parce qu'effectivement, au-delà de d'absolument vouloir vivre son indépendance en suivant les modèles que la société nous impose, c'est surtout le choix individuel des femmes qui, où là, on a véritablement la question du féminisme et pas juste essayer de suivre les modèles préétablis. Et...
Exactement.
Et comme si c'était les modèles préétablis qui te disent si t'es indépendant ou pas. Mais c'est vrai que quand t'entends les discours des générations un peu précédentes, c'est ça, quoi.
Non, mais on leur a survendu le truc, tu vois. C'est on vous vend le biberon parce que c'est super pratique. Et c'est encore ancré. Ouais. C'est pratique, c'est rapide. D'où ces pratiques de trimballer avec 15 bouteilles dans ton sac, avec, je sais même pas comment ça s'appelle, le machin là pour nettoyer le biberon, avec la poudre, avec l'eau, il faut que ce soit, que tu aies un endroit pour pouvoir le chauffer, alors que tu tasses ton sein, tu le sors, c'est fini. On n'en parle plus. Enfin, tu vois, moi, pendant tout le temps, en fait, je suis toujours sortie avec mon petit tote bag, j'avais rien d'autre. Ça fait un peu mauvaise mère, mais j'avais pas de lingette pour nettoyer mon fils. Mais j'avais mon tote bag et mes seins, tu vois.
Déjà tout équipé.
Déjà tout équipé. Et voilà, mais ça, on te le vend pas, ça. Parce que il y a toute une industrie, tu vois. Tu mets tout bout à bout, il y a toute une industrie encore derrière, tu vois.
Et c'est comme pour la naissance, c'est ce que j'écoutais dans un autre podcast. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas totalement percuté sur le truc, mais... Quand tu te dis que pendant des siècles et des siècles, les femmes, elles accouchaient toutes seules, quoi, plus ou moins, tu vois, ou entourées d'autres femmes. Mais,
c'est ça.
Mais un jour, il y a un mec qui s'est dit, tiens, on gagne quand même vachement de thunes avec la médecine et tout, mais la naissance, on n'a rien fait encore, alors qu'il y a moyen de gérer pas mal, quoi. Et voilà.
Mais c'est surtout, franchement, tu vois, en règle générale, la maternité, elle nous est volée, en fait. Elle nous est volée parce que... Enfin... La maternité, une partie aussi de notre féminité, tu vois, l'accouchement, voilà, par rapport à l'accouchement, juste l'accouchement, surmédicalisé, tu peux pas accoucher comme tu veux, tu peux pas accoucher dans la position que tu veux, parce que tu dois être dans une position qui sera confortable pour
le médecin. Soigner,
tu vois, enfin, le ubuesque, quoi.
Ouais, c'est clair.
Tu vis pas ta maternité, et quand tu as accouché, on te dit tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu fais, mais attendez, je vais parler comme une vieille, mais le monde est monde. Et on n'a pas eu besoin d'être guidé sur ça, on l'a fait de façon instinctive, et nos instincts ne sont plus, tu vois.
On est coupé totalement,
complet. Même pendant la grossesse, en fait, même pendant la grossesse. Donc et puis voilà, on est guidé par les médias, on est guidé par l'histoire des uns, les histoires des autres, et on s'écoute pas. On ne s'écoute plus. Vraiment, on s'écoute plus, on s'informe plus non plus, parce qu'on pense que tout est acquis. On se donne pas la chance de s'écouter et de se faire confiance.
Ouais, et puis en même temps, quand t'as les aînés qui sont là pour pour te brimer un peu ta confiance en toi, justement, et te dire que c'est eux qui ont raison, c'est vrai que c'est compliqué.
Ben, c'est ça. Enfin, moi, je suis une tête dure, donc c'est vrai que...
T'as pas vécu ça?
Ben si, enfin, je l'ai vécu comme je pense toutes les jeunes mamans, en vrai. Hein.
Ouais.
Enfin, tu vois, à partir du moment, en fait, à partir du moment où t'es une femme, en règle générale, tu te fais beaucoup plus juger et beaucoup plus critiquer pour telle ou telle chose que tu feras. Quand tu deviens mère, aussi, tu vois. Et ce que j'aime à dire, c'est que c'est pas parce que t'as eu 15 enfants que t'as fait 15 fois les bonnes choses, en fait.
Ouais.
Et ce sont tes expériences, ce sont pas les miennes. C'est toi qui l'as vécu, c'est pas moi. Donc laisse-moi me prendre une tôle, ce sera ma tôle. Et je me relèverai de la façon dont je me relèverai. Et j'apprendrai de la façon dont j'apprendrai. Mais c'est pas toutes les femmes qui pensent comme moi, en fait. Mmh. Ou qui agissent comme moi. Encore une fois, je jette pas la pierre à celles qui n'y arrivent pas ou qui n'arrivent pas à se détacher du jugement ou de la critique qu'elles peuvent recevoir. C'est difficile. Franchement, c'est super dur d'arriver à faire fi de ce qu'on va te dire, tu vois. Si en plus de ça, ben c'est un très proche. Je parle d'un conjoint, d'une partenaire, ta mère, ta sœur, tu vois. Ça, c'est encore plus difficile qu'un étranger ou un médecin, tu vois. Donc,
souvent, c'est plus les très proches qui se permettent de dire...
soit tu coupes les ponts avec eux parce qu'ils deviennent toxiques. Et ça, c'est pas facile non plus. Ou soit tu te blindes et tu te dis, je fais ce que je veux, quoi. C'est mon enfant. Mais c'est difficile. Quand t'es une jeune maman... quand c'est ton premier ou que t'as pas confiance en toi, que t'as personne pour te soutenir à côté, c'est pas facile. Hein. Franchement, non, c'est pas facile.
Et du coup, je voulais rebondir sur la petite anecdote là que tu partageais tout à l'heure par rapport à une de tes dernières stories où tu parlais de cette conversation que t'as eue avec ce mec et qui t'a pas mal énervé.
Encore aujourd'hui, si tu veux. J'ai trouvé ça incroyable.
Je le comprends beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on vit régulièrement pendant les repas de famille, tu vois. On s'attend toujours à ce qu'on ait des remarques et tout. Et c'est vrai qu'au tout début, les premiers mois où on a eu Charlie, j'étais beaucoup dans la réaction, tu vois. Et du coup, je répondais au tac au tac et au final... Ouais. Ça me bouffait énormément d'énergie, ça m'énervait énormément. Et un peu comme toi, tu vois, même plusieurs jours après, tu continues à penser et à te saouler. Et finalement, tu vois, à force de me rendre compte que ça me bouffait beaucoup, je me suis dit, bon, maintenant, si on ne me pose pas de questions, si c'est juste des remarques, je ne réagirai plus. Tu vois. Si on me pose la question, je vais répondre, je vais ouvrir le dialogue, mais sinon, je ne réagirai pas. Je me demandais, toi... là, pour le coup, je me souviens, pour cette histoire que tu racontais, tu as dit que t'étais resté un peu en retrait. Comment ça se passe en règle générale? Est-ce que c'est souvent comme ça ou au contraire, t'es très, très réactive? Comment tu gères ces situations?
Alors, en 3 ans, c'est la première fois, en fait, qu'on a eu cette conversation. Parce que, je sais même plus sur quoi c'est parti, pour être honnête. Mais c'était la première fois et pourquoi j'ai été dans cette aussi énervée, c'est que j'étais fière de me dire que j'étais dans une famille où je n'étais pas jugée. Et qui était ouverte à la discussion et à la remise en question. Et pourquoi j'étais énervée aussi, c'est que la personne en question est une personne cultivée. Je t'explique. Il y a des personnes, c'est pas un jugement de valeur ou quoi, hein, mais tu vois, des personnes qui n'ont pas forcément accès donc à l'information ou qui sont pas forcément, tu vois, des érudits ou des choses comme ça, et qui vont peut-être avoir des idées préconçues et pas pousser la réflexion plus loin que ce qu'ils vont avoir entendu, les on-dit, les machins, tu vois.
Oui.
C'est pas le cas de cette personne-là. Elle lit, très cultivée et tout. Et sortir autant de conneries à la minute, j'ai été choquée. Parce que c'est des trucs, si tu veux, que quand j'en parle sur mon compte, c'est genre, je peux t'en faire 10 posts. mais 10 posts sur un cliché. Et je me dis, attends. Et moi, ça m'était jamais arrivé, en fait, d'avoir autant. J'ai commencé à. C'est parti en sucette quand il a dit que l'allaitement, c'était une mode et que ça revenait.
Oh là là.
Je fais, attends, comment te dire? On a des seins. On a des seins et c'est pas trendy de donner les seins, en fait, de donner du lait de tes seins. Ce qui est à la mode, bah, c'est de donner un biberon, tu vois. Dans le sens mode, c'est que ça a été mis en avant, c'est sexy. C'est sexy. Parce que tu vois, t'as des biberons qui ont une forme, tu pourrais c'est le déposer en, sur ta table de, sur ta, sur ton étagère, tu peux dire, non, c'est une sculpture. mais c'est, tu vois, c'est plus stylé de donner un biberon que de, d'allaiter. On va, voilà, on va dire les choses. Dans cette société, c'est plus stylé. Et ça, en fait, j'ai franchement, c'est le truc. Et j'ai commencé à partir. Et donc, quand je commence à m'énerver, tu sais, mes mots sont plus. Voilà, je suis plus. Je suis plus douce. Je suis. Enfin, tu vois, ça commence à monter. Tu vois, là, je t'en parle, je me rappelle, ça m'énerve. c'est parti comme ça. Et j'ai fait, vas-y, c'est bon. Je vais pas. En fait, je savais que j'étais face à une personne qui. Parce qu'elle travaille en fait dans un milieu entouré de personnes du professionnel de santé, hommes. Alors j'ai rien contre les hommes, hein. Attention encore, hein. Mais hommes qui parlent d'un sujet qu'il ne connaît pas et qu'il ne vit pas au quotidien, alors que face à lui, il a une personne qui le vit au quotidien depuis 3 ans, qui s'est informée. Et en fait, j'avais face à moi une personne qui, enfin voilà, t'avais l'impression qu'elle remettait en question tout ce que je disais parce que j'étais plus jeune que lui, parce que c'était un homme qui travaillait dans le milieu de la santé, qui avait des contacts avec des personnes de la PMI avec lesquelles voilà, moi je me suis heurtée, qui remettait en question des études, des recherches qui avaient été faites sur le lait maternel, des choses comme ça, et qui était vraiment dans la fermeture. Et j'ai préféré prendre du recul et laisser mon mec parler en fait, parce que lui il essayait de voilà d'aplanir les choses. Et ce que j'ai pas raconté, c'est que la semaine d'après, en fait, j'en parlerai dans une autre publication, mais j'attends d'avoir un professionnel ou pour appuyer mes propos. Mon fils a des caries. En tout cas, il a un problème d'émail que des dentistes qui ne s'y connaissent pas ont associé à l'allaitement.
Ouais, voilà. Comme c'est étonnant.
Voilà. et je suis retournée une semaine après chez cette personne qui est le mari de ma belle-mère. Et je suis retournée chez lui et il a regardé mon fils en disant « Ah ben, tu vois ?» Tu vas aller chez le dentiste, mais tu vois, l'allaitement, ça fait pas tout. Voilà. Donc, super. Du coup, j'avais... Voilà, mon mari m'avait dit, bon, prends du recul, c'est juste... voilà, il est juste ignorant ça en vaut pas la peine. Ignore. Et c'est vrai, tu vois, dans ce cas-là, j'aurais pu passer s'il avait pas dit cette petite phrase la semaine suivante. J'aurais pu passer parce que effectivement tu peux être cultivé et pas forcément être cultivé sur tout, mais si tu es cultivé, tu es assez intelligent pour te la fermer si tu le sais pas, ou au mieux engager le dialogue pour avoir un débat construit, quoi.
Ouais.
Pas camper sur tes positions, tu vois. Et c'est ça qui a fait que j'ai perdu toute bienveillance, que j'ai perdu toute patience et que j'ai préféré prendre du recul. Enfin, partir, pardon. Mais en règle générale, tu vois, face à des personnes, j'ai eu rarement des personnes qui étaient malveillantes comme ça, vraiment.
Ah, c'était la première fois.
C'était vraiment la, ouais, parce que sinon, c'est des personnes qui vont sortir des petits clichés. Je vais leur dire et puis pas dire que j'ai raison, surtout bien sûr, hein, mais qui vont pas être dans l'invective, parce que pour moi, c'était de l'invective et de la méchanceté.
Oui.
Mais des personnes qui sont, tu vois, qui s'y connaissent pas vraiment, mais qui vont pas rentrer dans l'invective ou qui vont pas être méchantes. Bon, je vais surtout me dire, bon, ces personnes-là, tu vois, ce sont des personnes qui sont ignorantes, finalement. Parce que, tu vois, je ne sais plus quel âge a ta fille.
Elle a 14 mois, presque.
Voilà. Bah, voilà. Je ne sais pas combien de temps Julie compte allaiter, mais vous allez en entendre. Et plus ça va être dans la durée,
oui.
plus il va y avoir des a priori, et plus il va falloir vous blinder, en fait.
Bah, de toute façon, quand on a vu qu'à 2 mois, on avait déjà... Ah, tu allaites encore.
Ah ouais, non, mais ça fait chaud. Hein.
Donc, tu sais à quoi t'attendre quand tu vas dépasser les 1 an. Et pour l'instant, tu vois, bizarrement, même si on a dépassé les 1 an, bah, c'est pas encore en mode oh là là, mais c'est incestueux et toutes les conneries qu'on peut entendre, quoi.
Alors, le truc, c'est que moi, ce que je trouve beau quand je t'entends parler, c'est que tu dis on. Tu vois?
Oui.
C'est pas juste. Et puis moi, j'ai dit, ouais, bon, parce que c'est Julie qui donne le sein, pardon. Hein. mais ce que je trouve beau, en fait, dans les allaitements non écourtés, c'est quand le partenaire est à fond avec sa femme. Mmh. Et je pense que ça, c'est la clé. En vrai, hein, c'est la clé. Et on ne met pas assez en avant les partenaires. Ouais. Alors, les papas, en l'occurrence, parce que j'ai plus vu des. Pendant les échanges que j'ai pu avoir, j'ai plus vu des papas. J'ai pas eu trop de couples de femmes. Mmh. Mais je trouve ça juste énorme. Et on vous met pas assez en avant, en vrai. Parce que c'est... Ouais, vous contribuez à 90%. Mais vraiment, je pense...
90%.
Ah, mais
c'est gentil.
Ah non, mais alors après, je parle peut-être pour moi, mais je sais que si mon copain, il était pas à fond, et encore maintenant, c'est genre, des fois, des fois, je suis saoulée, je suis fatiguée et tout, et il y a mon fils, alors que moi, je voudrais faire autre chose, et qui me dit, non, mais regarde, il veut juste téter, allez, tu te poses à côté, et c'est lui, tu vois. C'est lui qui me dit allez vas-y tu te poses avec lui voilà c'est calé machin et tout et j'aurais pu mais lâcher mais longtemps il y a longtemps si j'avais un mec qui était soit jaloux soit allez vas-y un petit biberon c'est pas grave ou qui serait pas du tout dans le soutien moi je pense que c'est 90% du soutien parce que les 10% c'est le lait qu'on donne et voilà tu vois c'est très important c'est très très important.
Mais après, ouais, tu dis on n'est pas assez mis en avant, etc. Je pense que de toute façon, tout ce qui touche à l'allaitement n'est pas assez mis en avant, c'est clair. Et...
Oui, mais c'est le... Enfin, je dis vous, les partenaires, mais c'est... Si, en soi, l'allaitement, oui, en règle générale, n'est pas mis en avant, mais ce qu'on ne met pas non plus en avant, c'est que l'allaitement sans le soutien, ben franchement, c'est très dur.
C'est hyper dur, ouais.
C'est très dur. Et combien de femmes, même les plus convaincues, même les plus motivées au début, après 1, 2, tu sais, les premiers pics de croissance, c'est là où des femmes arrêtent d'allaiter, le taux de femmes allaitantes après 1 mois chute drastiquement, et ça correspond
avec les pics, ouais.
au premier pic de croissance. Et ça, si tu ne peux pas y faire face parce que t'es pas soutenu par ton homme ou par n'importe qui autour ou même une amie qui est passée par là ou quoi, ben tu passes au biberon. Tu passes au biberon parce que on n'est pas dans la banalisation de l'allaitement, on est dans la banalisation de l'abandon, vraiment. Tu vas arriver, vous y arrivez plus. Oh, il a fait ses dents. Oh, il a. Bah, allez, le biberon. Oh, mais c'est pas grave. Le lait artificiel, c'est quasiment comme le lait maternel. Alors que non. Tu vois? Et je te le dis parce que, en 2 ans, j'ai vu passer, tellement de témoignages de mamans, tu vois. Et, mais c'est ça. Les médecins, c'est ça. C'est un truc de ouf. Et, tu vois, toi, dans ta famille, on t'a dit aux 2 mois de Charlie, quand est-ce que vous allez arrêter l'allaitement? Moi, c'est quand je suis arrivée à la PMI, aux 2 mois de mon fils, il va falloir le mettre dans sa chambre, commencer à essayer de le diversifier pour qu'il puisse apprendre un peu à être autonome. Pardon? 2 mois.
Il faut qu'il commence à s'habiller tout seul et...
Non, moi, j'ai commencé à lui chercher son appart.
Non, mais ça me sidère toujours plus chercher l'autonomie. C'est plus en plus tôt, c'est ouf, quoi.
Ah non, mais c'est ça. Et l'allaitement, on te parle juste de donner le sein, tu vois, donner le sein avec le lait. L'allaitement, quand on te l'explique, c'est que ça. On te parle pas de tout ce qui est rassurant, confort, régulation, enfin tous les bienfaits, on t'en parle pas. On te dit juste donner le sein, donner le lait. Mais passer deux ans et que le bébé il est diversifié, c'est plus le lait qu'il recherche. C'est le réconfort, le contact, tu vois.
Ben oui. Mmh.
Et ça on n'en parle pas non plus, tu vois. On n'en parle pas.
Parce que de toute façon, tout ce qui est lié à l'émotion, on le cache un peu sous le tapis. Hein.
L'émotion des enfants, oui, en fait. L'émotion des enfants, ouais. Et après, on va te parler de faut que la mère elle reparte au travail, faut qu'elle reprenne sa vie de femme, faut qu'elle.
Ouais, tu vois, parce que quand elle est maternante, c'est plus une femme, quoi.
Ah non, ce n'est qu'une femme qui donne le sein.
Ce n'est qu'une mère nourricière.
Une mère, exactement, tu vois. Alors que non, tu vois, je me suis jamais sentie plus femme, mais vraiment que depuis que que j'allaite. Même pas que depuis que je suis maman, mais vraiment depuis que j'allaite. Parce que j'ai repris confiance en moi, en mes capacités, en mon corps, qui est pas parfait, mais que j'accepte aujourd'hui, tu vois. Et c'est pas body positive, tout ça, tu vois. C'est vraiment un déclic qui s'est opéré. Ça s'est pas fait en un mois. C'est comme la vision de l'allaitement et de la mère qui peut avoir ses failles. C'est mon corps, il est pas parfait, c'est pas un corps instagrammable, mais c'est un corps que j'accepte aujourd'hui, qui a son histoire. Je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mon couple aussi, qui a vécu des hauts et des bas. C'est des phases et c'est pas l'allaitement qui a fait que ça n'allait pas dans mon couple, tu vois. Parce que ça aussi c'est
un truc qui revient beaucoup.
Ouais, l'allaitement ça va t'éloigner de ton mari, tes seins vont être comme si vous allez moins faire l'amour, en plus on fait du cododo avec mon fils. J'ai tous les clichés de la hippie bobo, hein. Non, je fais du cododo encore avec lui.
Ça paraît tellement logique quand tu fais de l'allaitement, ça paraît tellement logique de faire du cododo, quoi.
C'est logique pour toi.
Oui, bien sûr.
C'est logique pour toi. Et moi, je suis dans. Certains vont dire que c'est l'extrême, mais je fais du cododo et mon mari, il est dans une autre chambre. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Franchement, je me vois pas redormir. En tout cas, pas pour l'instant. Tu vois, ça me manque pas de pas dormir avec mon chéri. Je le rejoins s'il a besoin d'eux ou quoi. Et ça se passe très bien, tu vois. Mais ça, encore une fois, c'est tabou dans notre société. C'est tabou de dire que tu dors pas avec ton. Non.
C'est le modèle de base.
Non.
Donc, puis il y a un truc hyper limite sacré, tu sais, la couche familiale, enfin la couche parentale, c'est faut pas y toucher, quoi.
Alors que je pense que tu le sais aussi, la chambre n'est pas le seul lieu où.
Oui, c'est clair.
Tu apprends à être hyper imaginatif, en vrai. Mais et ça, pareil, on t'en parle pas, tu vois. Et on l'a découvert sur le tas, mais on t'en parle pas. Enfin, je sais pas, on dirait que c'est le truc est tabou. Enfin, tu vois, le truc est caché. Et je m'en rappelle que j'en parlais avec une copine qui, quand je lui disais que mon mec, il dormait dans une autre chambre et que mon fils et moi, on dormait tous les deux dans une autre. Et que, franchement, sans cette séparation nocturne, je pense que je serais décédée. franchement, je... Elle me disait, mais ouais, mais moi aussi et tout. Mais jamais on en parle. Déjà, mmh. tu vois, c'est que maintenant que tu vois un petit peu ça se désacraliser un peu et que les femmes en parlent, tu vois, genre sur certains postes et tout ça, machin. Mais t'as l'impression que c'est un secret gardé, quoi. Ouais. Tu vois? Comme le fait d'aller faire caca avec son enfant au sein. Tu vois, c'est un secret gardé. On n'en parle
pas. Un des premiers selfies que j'ai fait quand j'ai lancé mon compte pour parler de parentalité et tout, j'ai fait un selfie parce que j'étais aux toilettes justement en portage. Donc bon, c'est pas donné le sein, mais on est un peu dans la même thématique.
J'avais fait ça. Mais oui, mais non, mais c'est ça. Enfin, il y a des. Enfin, tu vois, il y a des. Et puis quand tu parles de ça et que tu dis, par exemple, bah, voilà, juste l'exemple des toilettes avec ton enfant. Ouais, mais tu pourrais le poser. Ouais, mais quand ouais. il a 2 mois, même quand il est plus grand, hein, je crois que je l'ai fait jusqu'à, il avait 8, 9, 10 mois, je sais plus. Ben non, en fait, je sais que si j'y vais, bon, je suis pas comme mon mec, j'y reste pas une heure, mais si j'y vais et que ça dure un quart d'heure, je ne sais pas, je vais pas laisser mon enfant pleurer pendant un quart d'heure. Ben ouais. Non, il vient avec moi. Tu vois? Et ça, c'est encore...
Souvent, ils sont à moitié endormis quand ils prennent le sein. Donc, ouais. Si c'est pour les sortir de cette ambiance-là, c'est presque une violence quand même, on se rend pas compte.
Absolument. Mais absolument. Et tu te dis, bon, et tu te dis que, bah voilà, c'est une éducation qu'on a eue, c'est que, voilà, on n'écoute pas les émotions de l'enfant, on n'écoute pas les besoins de l'enfant. C'est bon, bah maman, elle a envie d'aller aux toilettes, c'est maman qui va aux toilettes, on s'en fout. De ce que va faire enfin l'enfant, c'est bon, il peut attendre, faut lui apprendre la frustration. Je sais pas si on te l'a sorti.
Ouais, si, bah si, bien sûr.
Faut lui apprendre la frustration. Pardon, je vais juste aux toilettes, quelle frustration, je peux le prendre, il y a pas de
danger imminent. Je sais pas dans ton entourage ou de ce que tu vois au quotidien, mais il y a quand même beaucoup d'adultes aujourd'hui qui niveau frustration, ils gèrent pas des masses, quoi.
Exactement, exactement.
Je pense qu'ils sortent tous du même modèle éducatif, quoi.
Absolument. Mais c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu vas avoir des parents ou des personnes qui sont pas forcément parents ou quoi, et j'ai été de ceux-là. Tu vois, j'ai été de ceux-là. Ouais, bon, c'est bon, je m'en suis pris une, c'est bon, ça va. Tu ouais. vois. Et puis tu repenses à ces violences en fait que tu as eues et tu dis non, ça va pas en fait. Parce qu'après tu fais le parallèle avec tes angoisses, tes stress, les réactions que tu peux avoir et tu te dis bah ça vient quand tu t'intéresses en tout cas à l'éducation positive, bah tu te dis ça vient pas de nulle part. Et t'essayes, moi, enfin, pour moi, j'essaye vraiment de combattre ce que j'ai vécu et pas le reproduire. Des fois, c'est dur.
Oui, oui, oui.
Des fois, c'est dur parce que bah, j'ai pas été élevée comme ça.
Sans...
Et ouais, et
sans
ouais.
qu'on s'en rende compte,
j'ai
quoi.
Des stigmates, tu vois. Oui. J'ai des stigmates et du coup, j'essaye de passer outre. J'essaye de passer outre. Des fois, c'est dur. C'est très dur parce que j'ai pas été, moi, élevée dans la bienveillance. Et à nouveau, je ne vais pas jeter la pierre à mes parents non plus parce que c'était une reproduction de ce que eux avaient vécu et ils étaient pas du tout dans une époque ou pas du tout dans une démarche de réflexion ou de prise de recul par rapport à ce qu'ils faisaient. Ils appliquaient ce qu'ils avaient vécu. Et ben comme bien. Eux pensaient qu'ils avaient bien réussi, en tout cas, tu vois... bah ça va, on n'est pas mort, tu vois,
voilà,
on s'en est pris, on n'est pas mort. Ben tu vois, ils reproduisaient ce qu'ils avaient vécu. Et moi en fait, tu vois, je suis créole, hein, tu vois, je les Antilles, Guyane et tout, c'est très comme ça, tu vois.
Ah oui.
C'est très mené à la baguette, les fessées, les machins, les punitions, les brimades, c'est très comme ça, tu vois. Mmh. C'est encore aujourd'hui, hein. Quand tu vois aujourd'hui des personnes qui vont te parler même avec humour de la calotte ou de la savate dans la tronche, moi ça me fait une boule au ventre. Mais c'est tellement banalisé, tu vois.
Que ouais, c'est presque drôle.
Ouais, pour certains. Pour certains. Mais on voit les résultats sur les adultes d'aujourd'hui. Mmh. Moi c'est un truc que j'essaye de combattre et que je veux pas appliquer à mon fils, quoi.
Ouais, c'est pas évident.
C'est très difficile. Évident. C'est très difficile.
Et mais tu vois, même ici, dans ma région, enfin c'est pareil. On a eu beaucoup de violence pseudo-éducative, tu vois, sauf que ça n'a absolument rien d'éducatif.
Bien sûr.
Et, enfin, tu sais, le fameux martinet, tu vois.
Ouais, tu vois.
Enfin, je sais pas à quoi c'est censé servir à la base, mais j'ai l'impression que le truc, finalement, il a été utilisé 100% contre les enfants, quoi.
Ah oui,
final,
non, mais...
Et c'est ouf de se dire qu'on a un matériel de torture qui est là pour l'éducation.
Oh, dis pas ça aux fans de 50 nuances degrés, quand même.
Voilà, mais ça, c'est un détournement qui peut être intéressant, mais...
Mais tu sais, on s'était posé la question... Non, mais, enfin, blague à part. Ouais. On s'était posé la question de, sexuellement, oula, il va falloir que tu mettes une annonce moins de 18 dans cette partie-là. Mais... Tu vois, genre, quand sexuellement, tu vois, genre, les fessées, les, enfin, tu vois, les, un petit peu à la 50 nuances degrés, est-ce que c'est pas des réminiscences de, des violences que t'aurais vécues, plus jeune, tu vois?
Bah, il me semble que les psychanalystes font parfois le lien, et d'ailleurs, tu sais, je sais pas si t'as regardé, je sais plus comment elle s'appelle, la série, où c'est des gens qui interviewent des tueurs en série et tout ça, et tu vois qu'en fait les violences qu'ils ont eues en étant enfants, ça les a rendus complètement psychopathes, et ça crée des déviances dans leur comportement. Donc là, bon, aimer les fessées pendant les rapports sexuels, c'est pas non plus
non,
psychopathe,
non.
C'est clair.
je fais pas ce raccourci, mais on s'était posé la question avec mon compagnon, mais c'était se dire que bah voilà, tu vois, les violences qu'on a reçues petits, fessées, je vais pas jusqu'à aller étriper des souris ou des grenouilles, hein, mais des fessées comme ça, est-ce que c'est pas, tu vois, c'est pas déviant, c'est pas ça, mais tu sais, c'est reporté sur des violences éducatives, quoi. Ouais.
Et je pense que c'est pas forcément automatique, mais chez certaines personnes, ça doit certainement, comme tu dis, faire des réminiscences par rapport à cette époque-là, quoi.
Ouais. Mais tu vois, voilà, et après, voilà, les angoisses, les trucs, mais dire que quand t'as reçu des fessées ou machin, t'es devenu plus fort, machin, non. Ça, c'est des trucs, qu'on veut, qu'on se dit pour se convaincre, consciemment ou inconsciemment, mais il n'y a jamais de positif à se prendre une tarte dans la figure, jamais.
Mais je sais pas si c'est un discours qu'on t'a déjà fait, mais... Quand j'essaie de, tu vois, pas forcément de convaincre, mais de toute façon, il n'y a même plus besoin de convaincre, c'est dans la loi, on n'a plus le droit de donner
ouais,
des
fessées. Ouais, mais t'en as quand même qui te disent, ouais, c'est bon, et puis tu sais pas ce qui se passe dans la maison des gens.
Oui,
en fait.
C'est clair.
Tu vois, en public, ils vont se contenir, mais tu sais pas comment ça se passe à l'intérieur des maisons.
C'est un peu le problème. Ouais. Mais effectivement, quand j'ai le dialogue avec des gens, ils te disent parfois, mais en fait, il y a des moments, la violence, elle est nécessaire, tu vois, et que pour faire avancer les choses, parfois, il faut passer par la violence. Ouais. Alors après, ça te part dans des comparaisons qui n'ont aucun sens, en te disant, oui, si quelqu'un, si les États-Unis lancent une bombe nucléaire sur la France, il faut bien qu'on rentre en guerre. Mais là, on parle d'enfants, tu vois, de guerre et tout, mais je pense qu'ils se rendent même pas compte à quel point ils ont des arguments qui n'ont pas de... qui sont pas constructifs, du coup, ils doivent extrapoler à fond pour qu'on puisse rejoindre leurs avis, tu vois, et dire oui, effectivement, bah, parfois, il faut rentrer en guerre pour se défendre et avoir la paix. Mais un enfant, t'es pas censé être en guerre contre ton enfant, c'est pas...
Ouais, mais tu sais, Rémi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que t'as des personnes qui sont en capacité de se remettre en question ou en tout cas d'être ouvert à la réflexion et d'autres qui le sont pas parce que environnement, parce que ben, pas la capacité d'eux, et c'est pas un jugement de valeur, c'est que t'as des personnes qui peuvent pas, qui juste peuvent pas, et qui vont rester ben, dans leur zone de confort et qui vont pas sortir de là, tu vois, et c'est quelque chose qui est ancré en eux et ça fait peur de se remettre en question.
Ouais.
Donc soit voilà, tu es dans la politique de l'autruche et que voilà, tu dis non mais moi ça m'a servi, maintenant je suis un homme plus fort, une femme plus forte, je peux faire face à ci, face à ça, et c'est bon, j'en suis pas mort, donc si je lui donne une PC, ça va pas.
Cette fameuse phrase là.
Ah ouais, non mais. Donc tu vois, tu as des personnes, enfin le franchement, c'est s'épuiser en vrai. C'est s'épuiser à essayer de pas de convaincre, parce que ça tu convaincras jamais quelqu'un en une conversation ou quoi, c'est un cheminement qui se fait, et un cheminement ne se fait pas en une conversation, ça se fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années.
Oui.
Il faut simplement que tu te dises, vas-y, on va rentrer dans une conversation, on va échanger et tout, mais t'énerve pas, parce que la personne en face de toi, elle a besoin ou elle le fera ou elle le fera pas, de prendre du recul. Mais toi, c'est pas ton rôle en vrai. C'est pas clairement ton rôle. C'est peut-être frustrant, mais je le conçois, c'est frustrant de te dire que face à toi, t'as une personne qui est fermée d'esprit ou qui est pas au même niveau d'avancement que toi dans la réflexion ou qui est pas prête à faire cette réflexion. Mais ce que j'ai appris, c'est le stoïcisme. Enfin, j'essaye de l'appliquer. Mon mec me dit à chaque fois stoïcisme, mais j'essaye vraiment, tu vois, de me dire que tu peux pas changer les choses en fait si la personne en face de toi, elle est pas dans cette même démarche que toi en vrai.
Oui, oui. Ouais, c'est pour ça que je te disais au début. Maintenant, j'essaie de pas réagir si on me pose pas de questions. Je vais pas rentrer dans le débat parce que c'est tout le temps stérile. Alors que si la personne, déjà, elle vient en te posant une question, en règle générale, il y a un peu plus d'ouverture que si c'est juste une réflexion.
Tu sais que la personne, elle est plus encline à échanger, en fait. Ouais. Que si elle arrive avec une vérité qu'elle pense absolue, tu vois.
Ouais.
Là, tu vas ramer, hein.
Totalement.
En fait, c'est vraiment pour te préserver. C'est pas fuir le débat, hein. Mais quand tu te trouves face à une personne, tu le sais, tu le sens. Quand tu te trouves face à une personne qui est pas ouverte à ça, tu vois clairement le mari de ma belle-mère, c'est une personne qui est pas du tout dans l'ouverture ou pas du tout dans l'échange. Lui, il est sûr de ce qu'il dit. Il a plus de 5 ans, il a 60 ans passé. On ne le fera pas changer. Il a vécu sa vie comme ça, nanana. Là, tu te dis, ouais, c'est bon, moi, je vais pas perdre mon temps. Et puis, c'est pas que tu t'abandonnes le truc, machin, mais il y a un moment, pour ta santé mentale...
tu fais plus de mal que de bien.
Bah ouais. Et il y a plein de gens comme ça, en fait. Tu vois, il y a plein de gens comme ça. De jeunes ou moins jeunes, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et le mieux, c'est de vivre ta maternité, ta parentalité comme tu l'entends. Tu feras des erreurs. On fera des erreurs.
C'est évident.
Il n'y a pas de parents parfaits. On fera des erreurs.
Contrairement à, je sais pas pour toi, mais contrairement aux générations précédentes qui te vendent leurs trucs comme moi, j'ai tout bien fait.
Ah, mais je pense que parce qu'ils ont oublié en fait. Parce que tu vois, quand tu leur remets un petit bébé dans les mains, ils te disent je me rappelais plus comment ça faisait. Blablabla. Alors que, tu vois, nous on le vit. Et peut-être que nous, alors je pense pas, j'espère qu'on sera pas de vieux cons. Mais
c'est clair.
J'espère qu'on sera dans cette. Je pense qu'on le sera parce qu'on l'est aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et je pense que nos parents n'étaient pas autant qu'on l'est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à des informations auxquelles nos parents n'avaient pas accès, ne serait-ce que par Internet. Tu vois, les lectures ne se limitent pas à ce que va dire Magique Maman. On va pousser le truc, tu vois. Et je pense que on sera dans l'accompagnement des questionnements de nos enfants et dans la remise en question à chaque étape de la vie de nos enfants. Chose que nos parents faisaient pas forcément. Moi les miens, tu vois, quand ils m'engueulaient et puis ça s'arrêtait là. Ils m'expliquaient pas pourquoi et des fois ils pouvaient m'engueuler 3 jours après que j'ai fait la bêtise. Enfin, et moi j'avais oublié. Je fais quoi?
C'est moi qui ai fait ça.
Je comprends pas. Mais tu vois, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et tu vois, genre mon fils. Alors je suis pas la mère parfaite et il m'arrive aussi des fois, de hausser le ton. Mais je me sens pas bien d'avoir fait ça.
Oui.
Tu vois. Alors que ma mère, si elle haussait le ton, elle s'en foutait, quoi. Enfin, genre, c'est bon, je lui ai dit de faire ça, elle fait ça, point. Tu vois. Et il n'y avait pas de remise en question. Et c'est qu'aujourd'hui, que je suis devenue maman et qu'on parle de la façon dont j'élève mon fils, qu'elle voit que je ne fais pas comme elle, soit on n'en parle pas parce que ça peut être un sujet qui va fâcher, tu vois. Ou soit, elle essaye quand même de s'assouplir sur certains trucs, tu vois.
Ouais, c'est cool.
Mais je pense qu'on sera pas comme la génération de nos parents. En tout cas, les personnes que je côtoie, avec qui j'échange et qui sont dans cette démarche-là, je pense qu'on est une génération plus conscientisée sur les besoins des enfants et sur leur véritable place dans la société. Ce qui n'était pas forcément le cas de nos parents.
Non.
Et même des professionnels de santé qu'on voit aujourd'hui, tu vois. C'est pas forcément le cas et c'est vraiment ancré, quoi.
Oui, malheureusement.
Ouais.
Ça fait déjà presque une heure qu'on a commencé ce podcast. T'as plein de trucs à nous partager, c'est vraiment cool. Alors, j'ai quasiment posé aucune question que je devais poser.
Mais... Je suis une bavarde.
Non, mais en fait, on est parti dans une direction que j'avais pas du tout anticipée et je trouve quand même que l'épisode est super riche, je suis content.
Cool.
Du coup, je ne sais pas si... Un de ces quatre, je reviendrai vers toi pour faire une suite si jamais ça pouvait t'intéresser.
Je te poserai mes questions et on suivra la trame parce que là, c'est n'importe quoi. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci.
Mais sinon, pour terminer, j'ai les deux petites questions signatures à te poser.
Ouais.
Si ton enfant écoute ce podcast un jour, bon, peut-être qu'on coupera la partie les fessées, tout ça. Ça dépendra de l'âge à laquelle il écoute. Mais...
Ce sera toujours gênant d'entendre sa mère parler de cul.
Qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
Que j'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu avec les informations que j'ai pu. Que j'ai pas tout fait... Enfin, j'ai pas fait ça dans la perfection comme certaines essayent de faire croire. Mais... que j'ai fait le maximum en fait pour m'informer pour être à son écoute et que c'est absolument pas un sacrifice que j'ai fait. Je l'ai fait parce qu'il le faut, mais c'est pas un sacrifice. Tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais parce qu'il le faut et parce que je sais que quand il grandira, je l'espère en tout cas, parce que on peut jamais dire à 100%. En fonction des expériences qu'il vivra, des rencontres qu'il fera, mais en tout cas jusqu'à un certain âge, je ferai en sorte d'être à son écoute et de lui apporter les billes en tout cas pour lui permettre de grandir de façon sereine et équilibrée.
C'est cool. Et enfin, si tu pouvais remonter le temps pour dire quelque chose à ton toi du passé, ce serait à quelle époque et qu'est-ce que tu te dirais ?
Ce serait il y a 3 ans et demi, avant la naissance de mon fils. Renseigne-toi, informe-toi et n'écoute pas les expériences. En tout cas, ne prends pas pour acquis les expériences d'autrui. C'est ta maternité, ton expérience et... Et sois indulgente avec toi et avec les autres. Et ne juge pas. Ne juge pas sans savoir. Parce que je l'ai fait et en ça, je regrette. Mais bon, en même temps, je me dis, je referai pas différemment non plus. Oui. Parce que c'est ça qui m'a menée à ces réflexions aujourd'hui.
C'est ça, c'est ce qui t'a permis d'avancer et d'en arriver là. Donc,
Clairement.
Voilà. Eh bien, c'était bien chouette. Merci, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te retrouver?
Donc, on peut me retrouver sur Instagram, donc avec boobs.fr et le petit underscore. On peut me retrouver aussi sur Facebook, boobs. Donc, c'est pas la photo avec la nana avec des gros tétés, c'est juste mon logo. Et il y a un shop aussi, boobs.shop. Où il y a des t-shirts, alors pas encore allaitement friendly, mais avec des messages qui sont rigolos quand même.
Oui. Et bien, tout ça, ce sera dans les notes de l'épisode. Merci, merci encore à toi, c'était vraiment chouette.
Merci Rémi.
À bientôt.
À bientôt.